Mon intervention porte sur une collection léguée au Musée des Arts Décoratifs en 1926 qui se démarque par sa singularité. En effet, comme vous pouvez le voir sur cette petite sélection d'une collection qui compte 180 objets, les objets sont d'une grande variété, occidentaux pour la plus grande majorité, seule une vingtaine sont asiatiques, particulièrement japonais, d'un caractère plutôt masculin. Mais je vais tout de suite vous faire la lecture d'un extrait du Cousin Ponce, revue des collectionneurs et des curieux, paru en octobre 1926. Alors que la plupart des femmes s'amusent à réunir dans des vitrines des bijoux, des éventails, des nécessaires à ouvrage ancien, la baronne Henri, comme on l'appelait couramment, prenait plaisir à collectionner de minuscules têtes de mort en toute matière. Littéralement passionnée par la chasse de ses bibelots, elle avait réuni tout ce que l'art japonais a produit dans le genre de plus étonnant, et aussi le Moyen-Âge et la Renaissance. Tous les types de spécialités lugubres étaient représentés, depuis les extraordinaires nesuke en bois ou en ivoire, jusqu'aux breloques, amulettes, grains de chapelet, porte-poison lilliputien en métal précieux ou émail orné de pierreries. Les amis de la baronne connaissaient cette passion, les marchands aussi, et il n'était pas de petit crâne remarquable qui ne lui fût signalé ou envoyé. Tout est dit dans ce texte, qui est en fait la nécrologie de la baronne de Rothschild. Tout est dit sur l'identité du collectionneur, puisqu'on apprend qu'il s'agit donc d'une femme, sur la nature de la collection, puisqu'il s'agit d'une collection thématique qui est constituée exclusivement d'objets représentant des têtes de mort, dont les tailles varient de 1 cm à 1,40 m. Et on apprend également que c'est une passion connue de tous, donc publique. Et c'est un véritable paradoxe. Mon intervention pourrait s'arrêter là, d'autant que je ne sais absolument rien sur cette épingle à cravate, comme sur aucun des autres objets. Mais il y a un paradoxe, car outre le testament conservé naturellement au Musée des Arts Décoratifs, dans lequel la baronne née Mathilde Weisweiler, en 1874, déclare « Je désire que ma collection complète de têtes de mort aille aux Arts Décoratifs, au Petit Palais ou à Carnavalet », elle comprend des bibelots, gravures, tableaux, statues, objets d'art de toutes sortes, tant à la muette qu'à l'abbaye. Les rares écrits dans lesquels figure le nom de la baronne Henri ne font état de ce penchant pour la collection. On apprend donc que les objets sont dispersés dans deux de ses résidences. D'autre part, son mari, le baron Henri de Rothschild, qui écrit abondamment, en particulier « Croisière autour de mes souvenirs » ou « Un homme de qualité » sur son oncle Arthur, ou un véritable portrait de sa femme de plus de 200 pages en 1946, soit 20 ans après sa mort, intitulé « Une dame d'autrefois », dans lequel il ne fait absolument pas état de cet état d'esprit bien particulier qu'est la collection. État d'esprit dont on sait que c'est bien sûr le propre de la famille Rothschild. Or, Mathilde n'est Weisweiler, n'est Rothschild que par alliance, n'est-ce pas ? Simplement, on apprend que c'est une charmante femme, une maîtresse de maison la plus avenante et la reine du bon goût et du bon ton. Sa belle-mère, Thérèse Laura, dans ses souvenirs de la Grande Guerre, n'évoque que les activités d'infirmière de la baronne Mathilde à l'hôpital et au front. Rien sur ce penchant pour la collection propre à la famille. En ce qui concerne l'étude même de la collection et la traçabilité des objets, je n'ai retrouvé que très peu de sources pour définir d'où pouvaient venir les objets. En 1913, il y a eu à Paris une vente, la vente Arthur Kay, d'un millier d'objets, dans lesquels figure un objet qui est actuellement au Musée des Arts Décoratifs. Comment est-il arrivé chez les Rothschild ? Donc entre 13 et 26, je n'en ai pas la moindre idée. Une autre vente d'importance en 1919, la vente Le Barbier de Tinan, dans laquelle figure 11 objets. Qu'est-ce qui est arrivé entre 19 et 26 ? Pas la moindre idée non plus. De plus, la parution de l'ouvrage dont Anne Forêt-Carlier vous a parlé sur les veaux de Cernay en 1930, qui est quelque chose d'extraordinaire, extrêmement bien illustré, certes postérieur au legs, avec de nombreuses photos qui permettent vraiment d'identifier de nombreux objets, ne les montre pas. Nous n'avons aucune indication du lieu précis dans lequel auraient pu être conservés les objets, ni de la façon avec laquelle la baronne aurait pu vivre avec ces objets. Et pourtant, on sait la part active qu'elle a prise au remeublement de l'abbaye, se faisant aider et conseiller par Émile Molinier, conservateur au musée du Louvre. Vous remarquerez qu'elle n'a pas mentionné le musée du Louvre comme un possible récepteur des collections. Donc cette collection de 180 objets, qui n'a d'égal pour la singularité de son objet que celle de la baronne Alice, la sœur de Ferdinand, qui a collectionné les pipes et les boîtes allumettes, au nombre de 450, qui ont été données à la bibliothèque de Grasse où elle résidait. Donc la collection de la baronne Henri de Rothschild demeure mystérieuse et je crois que moi je fais partie des personnes qui doivent commencer maintenant à véritablement me pencher sur la collection. Et on s'interroge toujours, je m'interroge toujours sur les ressorts qui auraient pu pousser Mathilde à collectionner, tout en ne pouvant m'empêcher de penser au traumatisme de la Grande Guerre qu'elle a vécu en tant qu'infirmière, et peut-être un aspect de son caractère qui aurait été un trait d'humour que l'on voit particulièrement dans cette épingle de cravate qui représente véritablement une caricature du capitaliste. Je vous remercie.